Matthieu, au chapitre 5. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et on lira à partir du verset 13. Et je vous avoue que je suis content des chants qui ont été chantés, parce qu'ils sont tous dans la même pensée que celle que j'avais. Et vous savez, quand on va prêcher, ça fait du bien de sentir que le Saint-Esprit veut dire quelque chose à l'Église et qu'il n'y a pas que nous qui l'avons reçu, mais dans les prières et dans les chants, de voir qu'il y a cette pensée. Donc dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 13, il est écrit ceci. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Le verset qui m'intéresse, ou qui nous intéresse plutôt, pardon, ce soir, c'est celui... Le verset 14 où il est écrit « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. C'est ce que le Seigneur Jésus va dire. Et j'aimerais vous dire, nous à Saint-Agne, nous sommes une lumière dans le monde. L'Église que nous sommes, le chrétien que nous sommes, est une lumière dans le monde. Jésus va dire « Je suis la lumière ». Mais il va dire aussi « Vous êtes la lumière ». Alors c'est quoi la lumière ? Si on regarde dans le dictionnaire, la lumière, c'est une clarté émise qui éclaire les objets, qui les rend visibles. Au final, la lumière, c'est quoi ? Ben, c'est ce qui sert à éclairer quelque chose. Quand il y a de la lumière, on voit les choses. Vous savez, la nuit, quand il faut conduire, on met les phares et on voit la route. La lumière sert à éclairer, pour voir les choses. Quand on est dans une salle, si là on éteignait la lumière qui ferait nuit, on verrait personne. Mais parce qu'il y a de la lumière, on se voit les uns les autres. La lumière, elle sert à révéler les choses. La lumière, elle sert à montrer les choses. Et sans lumière, il y a des choses que je ne peux pas voir. Mais avec une lumière, il y a des choses que l'on peut voir. Vous me suivez ? Au final, la lumière, ça rend visible les choses. Et pour nous qui sommes chrétiens, donc si on a une lumière dans le monde, si on a une lumière pour le monde, ça veut dire que nous avons quelque chose à rendre visible. Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce que nous devons rendre visible que les gens ne peuvent pas voir ? Si on n'est pas là, à votre avis? Je crois que le but de l'Église, c'est d'éclairer Jésus. Et c'est que les gens puissent voir et puissent être au contact de Jésus. Dans ce texte, il nous est parlé du chandelier. Vous savez, le chandelier, c'est vraiment l'image du témoignage, c'est l'image de l'Église. Par exemple, si on va dans l'Apocalypse... Il est écrit ceci, je vais vous lire ce texte, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 1er, c'est Jean qui a une vision, il voit les choses spirituelles, et au verset 12, donc il va entendre une voix, et au verset 12 il est écrit « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Au verset 19, il est écrit, c'est Jésus qui va parler à Jean, il va lui dire, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite est des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Donc lorsque Jean voit les choses dans le spirituel, il voit Jésus entouré de sept chandeliers. Et il y a l'explication juste après, les chandeliers, c'est les églises. Ça veut dire que nous, l'église que nous sommes, l'église locale, nous sommes un chandelier. Et oui, à l'époque, ils n'avaient pas des lampes torches avec des piles. Ils avaient un chandelier. La lumière, elle était fournie, elle était possible, elle était portée par quelque chose qui était, aujourd'hui on appellerait ça une lampe, mais à l'époque, c'était un chandelier. Et un chandelier... tout en or. Et on voit au final que ces chandeliers, ils étaient autour de Jésus. Jésus était au centre. Ça veut dire que ces chandeliers, les sept chandeliers, oui, il y en avait sept, mais ils avaient une seule but, un seul centre, c'était Jésus-Christ. Et vous savez, Le but d'un chandelier, c'est quoi? C'est pas de s'éclairer lui-même. Quand on allume un chandelier, on l'a lu tout à l'heure, c'est pour éclairer ce qu'il y a dans la salle. Et le but d'un chandelier, le but d'une église, c'est pas de s'éclairer soi-même. Le but d'une église, c'est d'éclairer Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La question à se poser, c'est voulez-vous que nos vies, notre assemblée, servent à éclairer Jésus-Christ? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Lorsque les gens viennent au milieu de nous, qu'est-ce qu'on veut qu'ils voient? Est-ce qu'on veut qu'ils voient un chantre? Est-ce qu'on veut qu'ils voient un prédicateur? Est-ce qu'on veut qu'ils voient des frères et des sœurs qui agissent de telle manière ou de telle autre manière? Est-ce qu'on veut qu'ils voient notre organisation? Est-ce qu'ils veulent qu'ils soient impressionnés par l'église que l'on est? Est-ce que l'on veut qu'ils retiennent le nom de notre église? Ou est-ce que l'on veut que celui qui soit mis en avant, celui qui soit vu, ça soit Jésus-Christ? C'est la question qu'on peut se poser. Et je crois que c'est ce que l'on veut. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui est allé à la croix. C'est Jésus-Christ qui a souffert pour le péché. C'est Jésus-Christ qui a tout pouvoir et qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est Jésus-Christ qui peut changer un cœur et qui peut faire que la personne qui aurait le cœur le plus sombre soit éclairée, que la personne qui aurait le cœur le plus dur soit changée, que le loup se transforme en agneau. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça. C'est Jésus-Christ qui peut casser les chaînes du péché, qui peut sauver et changer la destinée d'une personne, d'une personne qui va mourir, qui va en enfer, elle soit complètement transformée et que les choses de sa vie, son avenir, son éternité soient transformées. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut guérir un corps. Il n'y a que lui. Et ce que l'on veut lorsque les personnes viennent dans notre église, c'est qu'elles soient au contact de Jésus-Christ. Ce que l'on veut, ce que l'on désire, et je sais que c'est la prière de vos cœurs aussi, parce que je vous connais pour la plupart, ce que l'on veut, c'est que Jésus soit au centre, et c'est que lorsque les gens viennent ici, leurs yeux, leurs pensées, leur âme, leur cœur soient orientés vers un seul et unique, une unique personne, c'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Mais est-ce qu'on y arrive toujours? Ça, c'est la question. Ça, c'est ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on y arrive? Est-ce que des fois, ça nous arrive pas de faire que les choses soient centrées sur nous plutôt qu'être centrées sur Jésus? Non? Prenons un exemple simple. On est au travail, il y a quelqu'un qui dit « Ah, t'es quelqu'un de bien, toi. » Merci. Oui, c'est vrai. Non, ça, c'est pas rendre la gloire à Jésus. Par contre, dire « Si tu savais ce que j'étais avant, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur, c'est parce que il y a quelqu'un dans ma vie qui a tout changé et c'est Jésus. Et là, je lui rends la gloire. Comprenez? C'est pas la même chose. Et vraiment, ce que l'on veut, et justement, il nous est parlé du chandelier dans la Bible à plusieurs reprises, c'est justement parce que l'on peut tirer des leçons pour être justement ce bon témoin de Jésus-Christ. Et j'aimerais dire aussi que, pour pas non plus culpabiliser, que le résultat, c'est-à-dire que ce qui se passe quand les gens sont en contact de Jésus. Mais ça dépend pas de nous. Vous savez, quand Jésus il allait dans certains villages, on voulait le faire roi. Mais quand il allait dans d'autres villages, on voulait le jeter du haut de la falaise. Les gens n'avaient pas du tout la même attitude en fonction des personnes qu'ils croisaient. Les gens n'avaient pas la même attitude et la même réaction vis-à-vis de Jésus. Mais par contre, ils réagissaient. Et nous, notre rôle, c'est pas de regarder au résultat. Notre rôle, c'est que Jésus soit au centre et qu'il soit vu, qu'il soit éclairé. Le résultat ne nous appartient pas. On voit qu'il y avait des prophètes qui étaient tous autant inspirés les uns que les autres. Dans certains cas, ils étaient méprisés, dans d'autres cas, ils étaient écoutés. On voit Jonas, il y a eu le plus grand réveil qu'il y ait jamais eu. Une ville entière de milliers d'habitants qui s'est convertie entièrement, intégralement. Et puis on voit Jérémie, un prophète selon Dieu qui a jamais été écouté, et ils n'ont rien trouvé mieux que le mettre au fond d'une citerne, et de prendre ce qu'il avait écrit, de le déchirer, de le mettre au feu. On voit que le résultat ne dépend pas de nous. Mais par contre, notre rôle, notre mission, c'est de montrer Christ. Que les gens l'acceptent ou que les gens l'acceptent pas, c'est pas notre problème. Nous, notre rôle, c'est qu'ils le voient. Mais on sait que, oui, si certains vont fuir, mais d'autres, par contre, vont être attirés, vont être aimantés par la présence de Jésus. D'autres vont l'aimer et d'autres vont lui donner leur vie, d'autres vont se laisser transformer par lui et d'autres vont aller au ciel. Ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Alors on va regarder quelques caractéristiques du chandelier et on va en tirer des leçons pour nous. Et vous savez, le chandelier d'or, il apparaît à plusieurs reprises, mais notamment il apparaît dans le livre de Zacharie, où là aussi, l'homme de Dieu, donc Zacharie, va avoir une vision. C'est dans Zacharie, au chapitre 4, et pareil, il va avoir une vision. Et dans cette vision, il va le voir, pareil, un chandelier tout en or. On voit, donc c'est dans Zacharie, au chapitre 4, verset 1er, « L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, et avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Pareil, on voit une vision avec un chandelier d'or. Et ce que j'aimerais qu'on puisse remarquer dans ce détail que l'on a de ce chandelier, c'est qu'il nous est dit au verset 3, « Il y avait près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et au verset 2, c'était dit qu'il était surmonté d'un vase. Ce que l'on voit, c'est que dans ce chandelier, donc c'était un chandelier à sept branches, il y avait une branche principale et trois branches de chaque côté, ce chandelier, il y avait un vase avec lui. Le chandelier, il avait un vase. Le vase, c'est vraiment l'image de ce que l'on reçoit. Pour que le chandelier puisse briller, pour que la lumière puisse briller, il fallait que le chandelier soit alimenté. Et ça, c'est une réalité spirituelle qui est toute simple. C'est que l'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Je ne peux rien donner de plus au monde. Je ne peux rien donner de supérieur. Je ne peux pas apporter la grâce si je ne l'ai pas reçue avant. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut, du Père des Lumières. Et la question, souvent, nous on est là, mais est-ce que je fais ceci? Est-ce que je dois faire cela? Est-ce que j'ai bien agi en disant ça? Est-ce que quand j'ai parlé de telle manière, c'était d'une bonne manière? Est-ce que c'était adroit? Est-ce qu'en ayant dit ça, ça va donner à telle personne la possibilité de se convertir? Mais c'est pas ça la question qu'il faut nous poser. La question qu'il faut nous poser, c'est est-ce que avant d'aller parler, est-ce que avant d'essayer d'être un témoin, j'ai reçu? Est-ce que je me suis tenu devant Dieu pour recevoir? Lorsque je vais au travail, lorsque je vais à la fac, lorsque je vais là où je dois aller, lorsque j'ai des rencontres de famille, des repas de famille, où je sais qu'on va me poser des questions, est-ce que je me tiens devant le Seigneur pour recevoir? Dans les actes, il nous est dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous avez vu, il y a un ordre. Vous recevrez et vous serez. On ne peut être le chandelier, on ne peut être cette lumière que parce qu'avant on a reçu. Si je ne reçois pas, je ne peux pas être. Mais si je reçois, alors je suis. Et ça, c'est une réalité qui est simple, et une question que l'on peut se poser. Oui, je veux que Jésus soit vu, mais est-ce que je me tiens devant Dieu pour recevoir de lui les choses? On voit qu'à la Pentecôte, oui, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais on voit quand même, c'était aller, mais ils ont attendu. C'est paradoxal. Jésus leur dit d'aller, eux ils attendent. Oui, pourquoi? Parce que Jésus va aussi leur dire, attendez la puissance qui vient d'en haut. Et c'est vrai que souvent, nous, on veut faire les choses, et c'est vrai que je pense que des fois, c'est plus facile de faire que d'attendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce serait plus facile de parler une heure de Jésus à quelqu'un, plutôt qu'attendre une heure d'être rempli de lui, tout seul dans sa chambre. Et ouais, parce que c'est pas facile. Et au final, les disciples, ils ont attendu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut rien faire et puis attendre? Non, ils s'attendaient. Ça veut dire qu'ils étaient dans la prière. Ils cherchaient ils attendaient la promesse qui leur avait été donnée. Mais c'est ensuite quand ils ont reçu, qu'après, ils sont allés donner. On voit que le chandelier était alimenté en huile. Ça veut dire, l'huile, c'est vraiment l'image du Saint-Esprit. Et c'est vrai que pour pouvoir être un témoin, efficace pour vivre les mêmes choses qu'ont vécu les premiers chrétiens. Pour, si vous voulez, pour avoir les mêmes résultats, il faut vivre la même expérience. Mais ce n'est pas impossible. Est-ce que ce soir, on peut vivre la même expérience que les premiers chrétiens ont vécu? Je vous pose la question. Le ruisseau de Dieu, est-ce qu'il s'est épuisé? Ou est-ce qu'il est plein d'eau? On va voir plus loin. Il n'y a pas de problème. L'huile, elle coule. Mais le problème, c'est que souvent, nous, on ne la reçoit pas. Que souvent, on veut faire les choses par nous-mêmes. Alors que l'ange va bien dire, ce n'est ni par la force. Toutes les forces que je mettrai, toutes mes forces à moi, n'y changeraient rien. Je ne ferai pas une seule conversion. Je ne sauverai jamais personne. Parce que celui qui sauve, c'est Dieu. Ni par force, ni par puissance. Toute la puissance, littéralement, c'est ni par l'armée. Même si on se mettait tous ensemble pour pouvoir convertir une personne au milieu de nous, il ne se passerait rien. On ne peut pas sauver les gens. C'est Dieu qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Mais ce que l'on peut faire, c'est éclairer Jésus. C'est que les gens puissent le voir et que Jésus fasse son œuvre. Que les gens puissent être saisis par ce qui s'est passé à la croix, par sa grâce, et que ensuite ils soient touchés par le Seigneur. Oui, je ne peux pas faire l'œuvre de Jésus, mais je peux être un canal pour que Jésus soit au milieu de nous. Je ne peux pas faire son travail, mais je peux faire en sorte qu'il soit au milieu de nous. Je peux faire en sorte d'être ce vase, je peux faire en sorte d'être ce canal, je peux faire en sorte d'être ce chandelier en or pour que les gens soient touchés. Alors peut-être que vous allez me dire, oui mais d'accord, je suis d'accord. Mais comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Ah, ça, c'est la question. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, on peut remarquer d'où venait l'huile. L'huile, il nous est dit qu'elle venait de deux oliviers. Il y avait deux oliviers de chaque côté du vase. L'huile coulait des oliviers, allait dans le vase. Et ensuite, les vases étaient reliés aux lampes par des tuyaux. On voit que l'huile, elle venait des deux oliviers. Et plus tard, l'ange va dire, parce que le Zacharie qui a la vision, il comprend pas tout. Alors il va dire, mais c'est quoi ces deux oliviers? Au verset 11, je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Pas de réponse. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux conduits d'où s'écoule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc on voit que l'ange va lui dire, ce sont les deux oints, c'est-à-dire ces deux personnes qui avaient l'onction. Les oints, c'était les personnes qui avaient reçu l'onction, qui étaient ointes d'huile. Et alors là, je vais donner ce que je pense, mais à l'époque et dans le contexte, les deux personnes qui avaient reçu l'onction, c'était quelqu'un qui s'appelait Josué, c'était le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était quelqu'un qui recevait l'onction pour faire cette mission-là. Et cet homme, ce qu'il devait faire, c'était sacrifier des agneaux, sacrifier des animaux dans le temple. Et la deuxième personne qui avait reçu l'onction, c'était Zorobabel. Zorobabel, c'était le roi de Juda à ce moment-là. Et au final, les rois aussi recevaient l'onction. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, je crois que pour nous, ces deux oliviers, c'est une seule et même personne. C'est Jésus-Christ qui a reçu l'onction pour être souverain sacrificateur, nous dit la Bible. Et ce qu'il a offert, c'est pas des animaux, c'est sa propre vie. Et il nous est dit aussi que Jésus est roi et qu'il a reçu l'onction parce qu'il était de la lignée de Juda pour être roi. Et on voit qu'au final, pour nous, le Saint-Esprit, si nous pouvons le recevoir, c'est parce que Jésus a payé le prix. C'est parce que Jésus est notre sacrificateur. Il a offert sa vie pour que nous puissions être purifiés. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est saint. Et il ne vient pas là où il y a la souillure, il vient là où un cœur a été purifié. Mais parce que Jésus a payé le prix, parce que son sang a coulé, parce qu'il s'est offert lui-même pour que nous puissions être sacrifiés, je peux recevoir le Saint-Esprit. Et il nous est dit de Jésus, quand il était à Gethsémané, qu'il a été pressé, qu'il y avait même des grumeaux d'huile qui coulaient. Que vraiment il a été à bout. Et vous savez ce que ça veut dire Gethsémané? C'est le pressoir à huile. C'est là où il a été pressé. Et c'est par ses souffrances, c'est par sa grâce que l'on peut recevoir le Saint-Esprit. C'est pas par nos mérites, c'est parce que Dieu fait grâce. et que parmi toutes les bénédictions qu'il y a dans sa grâce, il y a le fait de recevoir l'Esprit Saint. Mais si je peux être rempli du Saint-Esprit aussi, c'est parce que Jésus est roi et qu'il a autorité pour nous remplir du Saint-Esprit. Dans Actes au chapitre 2 et au verset 33, il est dit qu'il a été élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Si l'on peut être rempli du Saint-Esprit, c'est parce que Jésus s'est assis à la droite du Père, qu'il a reçu l'autorité et qu'il l'a répandu. C'est pas « il va le répandre », il l'a répandu. Et si ce soir on peut être rempli du Saint-Esprit, c'est pas parce que on est meilleur, mais c'est parce que Jésus a souffert pour qu'on soit purifié, mais aussi parce qu'il l'a répandu. Et que le ruisseau d'eau, comme je l'ai dit, est plein d'eau. On voit dans la Bible un moment Esther, la reine Esther qui va s'approcher du roi. Alors là, c'était un petit roi. Rien à voir avec le roi des rois, seigneur des seigneurs, celui qui a le nom au-dessus de tout nom. C'était juste un roi, le roi d'Assyrie. Et à un moment, Esther va s'approcher du roi et il nous est dit qu'elle va trouver grâce aux yeux du roi. Et il va lui dire, mais que demandes-tu, reine Esther? Même si c'était la moitié de mon royaume, je te le donnerai. C'est beau. Le roi, il était prêt à lui donner la moitié de son royaume. Mais j'aimerais vous dire que le roi des rois, il veut vous offrir bien plus que la moitié d'un royaume. Parce qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que tous les biens sur cette terre. Il y a quelque chose qui a plus de valeur que la plus belle des richesses qu'il puisse y avoir sur terre. C'est là sa présence. C'est le Saint-Esprit. À un moment, il est dit dans la Bible, mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et Dieu peut vous donner bien plus et infiniment au-delà que tout ce que les richesses de ce monde pourraient vous donner, c'est sa présence, c'est son Esprit Saint. Et il n'y a rien de plus glorieux, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus merveilleux que d'être rempli du Saint-Esprit. Sauf que des fois, le problème, je pense, c'est qu'on a une vision qui est biaisée, c'est qu'on ne se rend pas compte de la valeur, de à quel point c'est précieux d'être rempli du Saint-Esprit. Et à un moment, Jésus va dire à une église qu'elle a besoin de collir sur ses yeux pour qu'elle voie les choses telles qu'elles sont vraiment. Et des fois, nous, on donne de la valeur à des choses qui n'en ont aucune. Et les choses qui ont le plus de valeur que Dieu veut nous donner, eh bien, on lui donne aucune valeur, on méprise. Et je pense que dans l'église, que pour l'église de nos temps actuels, il y a quand même besoin d'une repentance. Repentance pourquoi ? Parce que l'Église souvent méprise la valeur de l'Esprit Saint de Dieu. Et qu'au final, on banalise des choses qui sont tellement précieuses. On banalise tout simplement sa présence au milieu de nous. Et je crois, et pour ma part, je sais que j'ai souvent besoin de le faire, de demander au Seigneur pardon, parce qu'il peut y avoir des choses, des fois, qui peuvent prendre plus de place dans nos vies, qui peuvent prendre plus d'importance dans nos vies que sa présence. Et dans ce cas-là, la meilleure attitude à avoir, c'est dire au Seigneur pardon. Pardon. Parce que c'est une erreur. Alors oui, le Saint-Esprit est répandu. Mais comment on le reçoit? D'accord, j'ai compris. Il coule. Le ruisseau d'eau est plein d'eau. C'est comme si là, on était en plein milieu d'un fleuve. Mais comment le recevoir en nous? Eh bien, de la même manière que vous avez reçu un cœur nouveau. Comment est-ce que vous avez reçu le cœur nouveau? Vous avez saisi par la foi ce que Dieu vous donnait. Comment être rempli du Saint-Esprit? En le prenant par la foi. Ce que Dieu vous a promis et vous a donné. C'est pas, il ne faut pas prier le Seigneur, mais Seigneur, déverse ton esprit. Il l'est déjà déversé. Il l'a déjà répandu. La prière, et nous, notre part, c'est de prendre par la foi ce qu'il a répandu. Imaginez, je vais prendre une image, alors elle est peut-être un peu déplacée, et je vous demande pardon, mais bon, c'est ça qui m'est venu en tête. Imaginez que je vous donne un portefeuille tout neuf. Vous êtes là, vous allez le prendre, vous allez dire, ah, merci, 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 merci. Et puis après, je vous dis, tenez, je te donne des billets. Ah non, le portefeuille me suffit. Comprenez, il faut prendre les deux. Si Dieu vous donne un cœur et qu'il veut le remplir, il suffit de prendre. Qu'est-ce qu'on attend? C'est pas, il va le répandre. C'est « il a répandu ». Et les promesses de Dieu, notre part, c'est pas de demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Ce serait un non-sens. C'est comme si je tendrais de l'argent et je dis « s'il te plaît, donne-moi l'argent ». Mais je te le tends, donne-moi l'argent. Mais je te le tends, je sens pas l'argent, donne-moi l'argent. Mais il est là. Il faut le prendre par la foi. Il faut le saisir. Vous comprenez? Tout le monde peut être rempli du Saint-Esprit, tous ceux qui sont nés de nouveau. Mais il faut faire un acte de foi. De la même manière que Jésus m'a donné un cœur nouveau et que je l'ai saisi par la foi, que j'ai cru sa parole et qu'il m'a dit que si je croyais que son sang purifie, efface de tout péché, qu'il était mort pour moi à la croix, il me donnait le cœur nouveau et qu'il l'a fait, s'il dit qu'il a répandu son Esprit Saint et qu'il veut le donner et qu'il veut remplir le cœur, il le fait. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est à nous de le prendre. C'est à nous de le saisir. Alors peut-être vous allez dire, oui, mais les temps sont plus compliqués. Et alors? Plus il fait sombre, plus ça brille. Plus les temps sont difficiles, plus la grâce de Dieu elle est d'autant belle. On peut le saisir. On peut le saisir. Et ce soir, vous n'avez même pas besoin d'attendre la fin de la prédication. Vous pouvez saisir par la foi le renouvellement spirituel dont vous avez besoin. Et par la foi, vous pouvez laisser le Seigneur remplir votre cœur. Mais la deuxième chose que l'on voit, c'est que les chandeliers, ils étaient tout en or. Ils étaient tout en or. Et l'or, ça parle du fait d'être sanctifié, d'être saint, d'être pur. Et ce qu'il faut savoir, c'est vrai, c'est que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, il sanctifie. Dieu dira, vous serez saint, car je suis saint. Et lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque l'on dit au Seigneur, oui, remplis-moi du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. C'est que des fois, notre cœur, il n'est pas tout à fait sanctifié. Il n'est pas tout à fait pur. Et il se trouve que quand le Saint-Esprit vient, des fois, il y a des choses qu'il nous montre. Il nous dit, oui, je veux venir, mais il y a ça. Ah, mais Seigneur, ça j'aime bien. Oui. Mais si je viens, je vais sanctifier cette partie de ta vie. Et c'est là qu'est le problème. C'est que des fois, c'est pas qu'on saisit pas la promesse, c'est que le fait de laisser la place et toute la place à Jésus, ça vient se confronter à des choses qu'il y a dans notre vie. Et vous savez, la sanctification, c'est quelque chose qui est fait conjointement avec le Seigneur. C'est écrit que le Seigneur nous sanctifie, mais c'est aussi écrit de nous sanctifier. Hein, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un texte qui dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1er, « Achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. » La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est quand Dieu nous montre quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est mauvais, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'attend que nous, on lui apporte cette chose qui ne va pas, et il la purifie. Et le problème, c'est que des fois, on veut garder certaines choses. Et ce qui fait qu'on n'est pas autant rempli du Saint-Esprit qu'on le devrait, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut enlever, mais que nous, on veut garder. Et Jésus, Dieu, ne force personne. Si à un moment, on préfère garder quelque chose plutôt que sa présence, ben il va dire d'accord. Il ne va pas s'imposer. Mais par contre, s'il nous montre quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il nous dit, attention, ce point-là, c'est pas bon. C'est notre part à nous de demander au Seigneur, oui, déjà, tu as raison. Parce que si tu me montres que cette chose-là n'est pas bonne par ta parole, c'est qu'elle n'est pas bonne, je la confesse au Seigneur, je lui demande pardon, et je compte sur sa grâce pour qu'il l'enlève. Et il fait un travail de sanctification. Et le cœur étant sanctifié, il le remplit. Vous comprenez? Le chandelier était d'or pur. Mais vous allez me dire, oui, mais il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est vrai. Mais aux yeux du Seigneur, si on lit, par exemple, dans les Philippiens, quand Paul dit qu'il n'a pas atteint la perfection, mais qu'après, il dit que, justement, nous tous, donc, qui sommes parfaits, marchons d'un même pas, la perfection, c'est quoi? Être saint aux yeux de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est simplement que tout ce qu'il nous montre, je ne tolère pas dans ma vie des choses qu'il me montre être mauvaises. Et à partir du moment où tout ce qu'il m'a montré, j'ai accepté qu'il le purifie, à ses yeux, je suis considéré comme saint. Et son esprit peut me remplir. C'est clair? Et au final, c'est ce que l'on voit dans le livre de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 7. Il nous dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Marcher dans la lumière. Eh oui, si on veut amener la lumière, il faut que nous-mêmes, on y soit. Si, à un moment, il y a un texte qui dit « Mais croyez en la lumière afin que vous deveniez enfants de lumière. » À un moment, si je veux que ma vie serve à ce que Jésus soit vu, ben, il faut que j'accepte l'œuvre de Jésus dans ma vie. Et souvent, c'est là qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des choses, Dieu nous les montre, la lumière, sa présence et surtout sa parole. Parce que c'est écrit « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Sa parole nous montre quelque chose. On est devant notre Bible. Sa présence vient. Il y a un texte que le Saint-Esprit utilise pour nous montrer ce qui ne va pas. Et là, on a le choix. Seigneur, effectivement, ça ne va pas. Alors, soit je lui apporte et je lui dis « Pardon, aide-moi, sanctifie-moi. » Soit je garde. Mais si je garde, c'est normal après que je n'ai pas cette plénitude que Dieu a promis à ses enfants. Mais je crois aussi que si le Seigneur nous parle de ça, qu'il y a des chandeliers qui sont en or, c'est qu'on peut le faire. Est-ce que les premiers disciples ont vécu ? Je crois que nous aussi, on peut le vivre. La question souvent, et le problème souvent, c'est que notre vision des choses est biaisée. C'est qu'on donne de l'importance à ce qui n'en a pas. Et est-ce qu'il y a vraiment de l'importance, qu'il y a de la valeur ? Ce qui a coûté cher au Seigneur pour que nous le recevions, on le méprise. Et je crois que dans ce cas-là, et vraiment je le répète, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement nous repentir et d'arrêter de marcher en négligeant la présence de son esprit et en essayant de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire, mais plutôt nous repentir, lui laisser la place et ensuite le laisser agir au travers de notre vie. Après, il y aurait d'autres points à propos du chandelier, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et je crois vraiment que ce qui compte, c'est pas qu'on soit d'accord, mais c'est qu'on puisse vivre ces choses. Et je vous propose qu'on puisse, on va prendre 5 minutes, où on puisse vraiment se tenir devant le Seigneur et vraiment mettre en pratique sa parole. Jésus dira, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez, que vous mettiez ces choses en pratique. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez, dans Jean 13. Et vraiment, ce que nous voulons, c'est pas juste connaître la vérité, mais c'est vivre la vérité. Ce que nous voulons, c'est pas juste savoir ce que fait la lumière, mais c'est être éclairé par la lumière et par sa présence. Et comme j'ai dit, le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit a été répandu, et je vous propose qu'on puisse prendre un temps pour s'approcher de lui et vraiment lui demander de nous remplir du Saint-Esprit. Oui, la promesse, elle est pour vous. Oui, c'est par grâce. Saisissez-la. Vous pouvez la prendre maintenant. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit maintenant. Et si le Seigneur vous montre quelque chose qui ne va pas, mais s'il vous le montre, c'est pour votre bien. Et là aussi, simplement demandez-lui pardon. Croyez le pardon de Jésus et laissez-vous remplir par son Esprit Saint. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et merci pour le Saint-Esprit que tu as répandu. Et Seigneur Jésus, tu as souffert tellement pour que nous puissions le recevoir. Et merci parce que tu l'as répandu Seigneur. Et simplement ce que nous voulons te demander, c'est que dans ce temps, tu puisses nous permettre de vivre ces choses que tu nous as promises Seigneur. Oui, s'il y a de la tiédeur, si nous ne sommes pas comme nous devrions être, Seigneur, ce n'est pas à toi la faute, mais c'est bien souvent nous qui n'agissons pas comme nous le voulons, et c'est bien souvent nous qui méprisons, Seigneur, la valeur de ton Esprit Saint. Et Seigneur, simplement, nous voulons te dire pardon et nous humilier et reconnaître, Seigneur, que c'est nous qui sommes en tort, mais merci parce que tu es un Dieu qui fait grâce, parce que tu es un Dieu qui pardonne, et parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est constamment nous renouveler dans ton Esprit Saint, Seigneur. Alors vraiment, nous te demandons que ce soir, que dans les heures qui suivent, Seigneur, les jours qui suivent, que nous puissions être renouvelés dans ton Esprit Saint. Et Seigneur, ce que nous voulons, oui, c'est être ce chandelier tout en or, alimenté par ton huile qui brillera et qui éclairera ta face au milieu de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, à un moment, il y a ce verset qui dit que tu veux faire luire ta face sur le peuple d'Israël, et nous ce que nous voulons c'est que ta face elle luise dans notre église Seigneur, et que ceux qui viennent au milieu de nous soient convaincus par toi et puissent te donner leur vie. Alors Seigneur, aide-nous Convainc-nous par ton Esprit Saint. Parle-nous, Seigneur. Montre-nous les choses qui ne vont pas dans nos vies, Seigneur. Montre-nous peut-être les choses que nous ne voulons pas te laisser prendre, Seigneur. Que nous ne voulons pas te laisser ou te laisser agir, Seigneur. Et vraiment, aide-nous à avoir un cœur tout entier pour toi, Seigneur. Avoir un cœur qui soit sanctifié par le sang qui a coulé, Seigneur, mais aussi rempli de ta présence. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.